Laudetur Jesus Christus.
Évacuation de deux hôpitaux à Kiev menacés par des frappes russes. Pendant ce temps-là, en Pologne voisine, les autorités se disent prêtes à rapatrier les ressortissants ukrainiens en âge de se battre. Nous entendrons l'incompréhension de la diaspora ukrainienne en début de ce journal. Détention illégale de prisonniers de guerre et de civils dans le Haut-Karabakh. 7 mois après la reprise du territoire par l'Azerbaïdjan, le directeur de l'œuvre d'Orient, Mgr Golnisch, appelle à l'action immédiate. Au Burkina Faso, la junte militaire serre à nouveau la vis contre les médias étrangers. Et puis le pape attendu à Venise ce dimanche. Le souverain pontife passera 5 heures dans les canaux de la lagune et rencontrera des femmes détenues et des artistes de la Biennale. Leur point commun, la prison de la Giudecca où le Saint-Siège a installé son pavillon. Pour en parler avec nous en fin de journal, le co-commissaire Bruno Racine.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. Crainte de frappe russe sur la capitale ukrainienne. La mairie de Kiev annonce évacuer 2 hôpitaux, dont un établissement pédiatrique situé en périphérie nord de Kiev. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux annonce l'attaque contre ces hôpitaux en raison de la présence, je cite, de terroristes qui se cachent derrière des enfants malades. Une information que la mairie réfute catégoriquement. Sur le terrain, l'armée ukrainienne peine à mobiliser de nouveaux combattants. C'est pourquoi une nouvelle loi a été votée afin de durcir les punitions pour les récalcitrants. Elle demande également le recensement militaire de tous les hommes ukrainiens de 18 à 60 ans vivant à l'étranger. Varsovie se dit prête à aider le pays en guerre à rapatrier les ressortissants vivant sur son sol, au grand désarroi de la diaspora ukrainienne rencontrée en Pologne par Adrien Sarla.
Au centre d'aide pour les réfugiés ukrainiens de Varsovie, la nouvelle a de quoi surprendre.
Ça va ressembler à quoi? Ils vont demander aux gars de monter dans des bus direction la frontière, c'est ça?
Pour Lena, 58 ans, cette annonce n'a pas de sens.
Ceux qui étaient patriotes, qui pouvaient se battre, sont déjà là-bas. Ceux qui restent, ce sont ceux qui ne se voient pas manier une arme, ceux qui ne s'imaginent pas tuer quelqu'un ou ont simplement peur.
Une peur que Natalia s'efforce elle aussi de comprendre.
Ces hommes devraient défendre le pays, mais moi-même, je n'irai pas. Et je n'y enverrai pas mon fils si j'en avais un. Cette mesure, c'est juste une façon de retarder l'intervention des pays occidentaux une fois que tous nos hommes seront morts.
Alexandre a 60 ans, il n'est donc plus en âge d'être mobilisé, mais il l'assure, être à l'étranger ne fait pas de lui un mauvais patriote.
Mes enfants vivent en Pologne depuis plus de 6 ans et je ne dirais pas qu'ils ne sont pas patriotes car ils sont dans tous les groupes d'aide. Ils recueillent des fonds pour l'armée, ils tissent des filets de camouflage militaire et ce qu'ils font est nécessaire. Je pense même qu'ils sont plus utiles ici qu'en Ukraine.
Aujourd'hui, 93% des hommes ukrainiens travaillant légalement en Pologne ont entre 20 et 59 ans. Si la Pologne met sa menace à exécution, ils risquent d'être reconduits de l'autre côté de la frontière.
Adrien Sarla, Varsovie. Pour Radio Vatican.
Au Soudan, l'ONU, gravement préoccupée par l'escalade de la violence autour d'El Fasher, capitale de la région du Darfour Nord. Ces 2 dernières semaines, des dizaines de personnes ont été tuées, selon le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dans le cadre des violents combats qui opposent depuis plus d'un an maintenant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Autre conflit oublié, celui au Haut-Karabakh. Les images satellites le prouvent, une église chrétienne a été rasé début avril dans ce territoire désormais sous contrôle azéri. 7 mois après l'offensive éclair qui a contraint les séparatistes de la région à capituler et la quasi-totalité de la population arménienne à la fuite, l'œuvre d'Orient s'alarme pour le patrimoine chrétien mais aussi pour les hommes de l'enclave, de l'ancienne enclave arménienne actuellement détenue à Bakou. L'organisation qui défend les chrétiens d'Orient depuis 1956 dénonce des détentions illégales. On écoute Mgr Golnisch, le directeur de l'œuvre d'Orient.
Nous savons qu'un ancien Premier ministre a été fait prisonnier et que d'autres personnalités, nous avons la liste des noms, nous n'avons pas le détail des fonctions qu'ils exerçaient, ils sont en prison dans des conditions qui peuvent être extrêmement rudes, dures et qui sont complètement contraires aux règles les plus évidentes du droit international. La moindre des choses serait que la Croix-Rouge internationale puisse avoir accès aux prisonniers, que nous sachions quel est leur état de santé. Il allait de soi que la reprise du pouvoir de l'Azerbaïdjan par rapport à cette région du Haut-Karabakh, si elle chassait les Arméniens, pour le moins devait éviter que ces responsables arméniens ne soient emprisonnés. Qu'on poursuive un acharnement qui n'est fondé sur rien contre les Arméniens est intolérable. Et donc l'idée qu'il y ait des Arméniens qui soient prisonniers parce qu'ils sont arméniens devient insupportable. Et donc nous demandons leur libération sans délai.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. 7 mois après la guerre, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont actuellement en pleine négociation sur le tracé de leurs frontières. Autre négociation à la une de l'actualité ce vendredi, celle portant sur une trêve dans la bande de Gaza et la libération des otages. Une délégation égyptienne est arrivée en Israël pour tenter de faire avancer les discussions, alors qu'une offensive israélienne se prépare toujours sur Rafah. Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme au Burkina Faso. Dans un rapport publié hier, l'ONG accuse des forces armées burkinabèses d'avoir exécuté au moins 223 civils, dont 56 enfants, lors de 2 attaques dans le nord du pays. Ces civils seraient accusés de collaborer avec des groupes armés islamistes. Et toujours selon le rapport, ces exécutions pourraient constituer de crimes contre l'humanité. Les informations du rapport ont été relayées par 2 médias anglophones basés à Ouagadougou, la BBC et Voice of America, raison pour laquelle le Conseil supérieur de la communication a décidé de suspendre ces 2 prochaines semaines les 2 médias. Les précisions de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le CSC dit avoir décelé dans le contenu de l'article incriminé diffusé par VOA Afrique et BBC Afrique d'énormes déclarations péremptoires et tendancieuses contre l'armée burkinabée sans éléments de preuve tangibles, d'autant plus que le même article invite à une enquête indépendante. Cette approche porte atteinte aux principes cardinaux du traitement de l'information en ce qu'elle constitue une désinformation de nature à porter le discrédit sur l'armée burkinabée, affirme le Conseil supérieur de la communication dans son communiqué. À cet effet, explique le Conseil. Au regard de l'urgence et de la gravité des faits, le CSC a décidé, conformément à ses prérogatives en la matière, de la prise de mesures conservatoires. Il a décidé de la suspension des programmes des 2 radios internationales émettant à Ouagadougou pour une durée de 2 semaines à compter de la notification de la décision. L'organe a invité l'ensemble des médias à s'abstenir de relayer à travers leurs différents supports cet article tendancieux et qui est de nature subversive. Ouagadougou, Lamine Traoré pour Radio Vatican.
Le gouvernement italien annonce la participation du pape François au G7 qui se tiendra du 13 au 15 juin dans la région italienne des Pouilles. Une session dédiée à l'intelligence artificielle, sujet au cœur des préoccupations du pape qui a consacré son message pour la paix du 1er janvier dernier. Pour la première fois de l'histoire, un pape prend part à une biennale d'art. Ça sera dimanche à Venise où François effectue une visite pastorale de 5 heures avec 4 prises de parole devant des femmes détenues, des artistes, des jeunes et des fidèles lors d'une messe place Saint-Marc. Le pavillon du Vatican a pris ses quartiers dans la prison pour femmes de la Giudecca, ancien couvent et hospice pour prostituées. Le directeur du Palazzo Grassi à Venise, Bruno Racine, en est le co-commissaire.
Que ce projet soit pas simplement un projet artistique, que des gens viendraient voir comme ils visiteraient une galerie ordinaire, mais aussi une expérience humaine très forte impliquant la rencontre avec les détenus, à la fois au niveau des œuvres des artistes et de l'expérience du visiteur. Chez les détenus, c'est tout à fait évident et profond. Pour prendre des exemples de ce qui a été réalisé dans le cadre du pavillon. Une artiste, Simone Fatal, grande dame de plus de 80 ans, d'origine syrienne et libanaise, a demandé aux détenus d'écrire des textes, des poèmes. Et elle a eu une réponse tout à fait extraordinaire, avec des textes, certains absolument magnifiques, qu'elle a ensuite transposés sur des plaques de pierre volcanique, de lave émaillée. Une autre artiste, Claire Tabouret, française, a demandé aux détenus si elles avaient des photos d'elles enfants, à l'âge de l'innocence en somme, et Claire Tabouret en a fait des œuvres originales. Enfin voilà, des exemples pour vous montrer comment l'intime est en quelque sorte transfiguré, réinterprété, mais de façon respectueuse et discrète en même temps par les artistes.
Bruno Racine, co-commissaire du pavillon Saint-Siège, ancien directeur de la Villa Médicis de la Bibliothèque nationale de France, il répondait aux questions de Delphine Allaire. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. Demain, 18h, Vox Mundi, notre émission qui recense l'actualité religieuse de la semaine. Et puis l'actualité du Vatican et du Pape revient lundi à 8h30, heure de Rome.